Vous écoutez Europe 1, il est 22h. L'heure du journal, Sophie Echen.
Quand j'ai acheté mon premier billet, c'était 82 euros. Et puis maintenant, quand j'ai réacheté les nouveaux billets, c'était à 54.
Nouveau week-end de départ en vacances et contre toute attente, il y a des trains et même des trains moins chers que d'habitude. La grève, elle, se poursuit. À l'image des syndicats, la gauche réclame le retrait de la réforme des retraites. Plusieurs élus sont venus soutenir les grévistes aujourd'hui. Bientôt le retour des 90 km/h sur les routes secondaires. La loi s'assouplit et les élus ruraux s'en félicitent.
Dans le monde rural, il vous faut une à deux voitures par foyer pour vous déplacer. On n'a pas le choix. Il faut emmener les enfants à l'école le matin, aller à l'usine, travailler et revenir.
Et pendant cette période, il n'y a pas que les trains qui connaissent des ratés, le courrier aussi, retard de lettres, de colis. Mais cette fois promis, les grévistes n'y sont pour rien. Le monde de la littérature secoué par des accusations de pédophilie alors qu'un livre choc s'apprête à sortir. À l'intérieur des révélations sur les agissements de l'écrivain Gabriel Matzneff, il se vantait de ses agissements sur les plateaux télé. Le corps calciné et dénudé découvert dans les Alpes-Maritimes a été identifié. Il pourrait s'agir d'une prostituée qui habitait dans la région. Et puis un choc de titan demain à Marseille. Le boxeur français Arsène Goulamirian a passé l'épreuve de la pesée ce soir avant son grand combat.
Marseille, c'est la maison. C'est un plaisir de monter sur le ring et de boxer devant mon public, tout simplement.
Pas d'interview écho ce soir, mais l'invité actuel de Sébastien Krebs. Sébastien reçoit la romancière Denise Bombardier en plein scandale, je vous le disais, sur les propos de l'auteur Gabriel Matzneff concernant ses pratiques pédophiles. C'était il y a 30 ans. Avant cela, bien sûr, la bourse et vos prévisions météo pour demain avec Marlène Duré.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Echen.
Et c'est la deuxième semaine de vacances qui commence ce soir. Certains partent quand d'autres tentent de regagner leur domicile, car ce n'est pas toujours évident de trouver un train. Bonsoir, Jeanne Bergaoui.
Bonsoir.
Alors, quelles sont les prévisions pour ce week-end ?
Eh bien, ça va encore être très perturbé en France, comme pour les destinations internationales avec les Thalys ou les Eurostar. Ce week-end, comptez en moyenne 6 TGV Inouï et Ouigo sur 10, 3 TER sur 10 demain et 4 trains sur 10 pour dimanche. Alors, pour renforcer certaines destinations prisées comme les Alpes, la SNCF a supprimé des trains cette semaine pour garder des ressources ce week-end. Résultat, la circulation pour Bourg-Saint-Maurice est par exemple à la normale. Pour ce week-end, ce sont 800 000 personnes qui vont voyager. C'est 20% de moins par rapport au même week-end de chassé-croisé l'année dernière. Mais sachez qu'il reste encore 300 000 places disponibles, puisqu'avec l'incertitude et les très nombreuses annulations, beaucoup de billets ont été remis en vente. Enfin, un petit point sur la circulation autour du réveillon. Pour le 31 décembre, la SNCF prévoit de faire circuler environ un train sur deux, 35% des TGV le 1er janvier, et ça remonte un peu pour le 2 avec un TGV sur deux.
Et il y a quand même une bonne surprise pour ceux qui ont décidé de réserver à la dernière minute.
Exactement, certains voyageurs un peu chanceux ont trouvé des billets moins chers que d'habitude en cette période de fête où les prix gonflent. La SNCF le reconnaît, pour remplir les trains, il faut bien faire un petit geste. Alors après plusieurs trains annulés entre Strasbourg et Paris, Samar a fini par voyager avec un billet plus intéressant.
Quand j'ai acheté mon premier billet, c'était 82 euros. Et puis maintenant, quand j'ai réacheté les nouveaux billets, c'était à 54.
Alors quasiment 30 euros de moins, et ça se confirme aussi pour d'autres destinations. Par exemple, un Paris-Rennes est affiché demain matin à 25 euros au lieu de 70 environ. Et puis, autre bonne surprise, la SNCF garantit aux clients qui partent ce week-end qu'ils auront bien un train retour le week-end prochain.
Merci beaucoup, Jeanne Bergaoui. À noter que demain, à Paris, 6 lignes de métro resteront fermées. Comptez en moyenne un RER sur A entre midi, un RER A. Entre midi, un RER A sur 2, pardon, entre midi et 18h, et un RER B sur 3. La grève contre la réforme des retraites continue donc, 23e journée de mobilisation aujourd'hui, et les syndicats maintiennent la pression, comme le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui est venu tôt ce matin devant un dépôt de bus de la région parisienne, à la rencontre des grévistes pour leur apporter son soutien. Des grévistes qui ont également reçu aujourd'hui le soutien de plusieurs responsables politiques de gauche à la gare de Lyon à Paris. Vous y étiez, Claudia Bertram.
Oui, des représentants de la gauche et de l'écologie une nouvelle fois ensemble sur le terrain. Ils sont venus soutenir une assemblée générale de cheminots contrôleurs qui ont voté la reconduite du mouvement social jusqu'à lundi. Le communiste Fabien Roussel en a profité pour faire passer un message à Emmanuel Macron.
Nous avions besoin d'échanger avec les cheminots et les organisations syndicales à un moment difficile entre les fêtes de fin d'année. Et nous sommes venus leur réaffirmer notre soutien et en même temps passer un message Le président de la République va présenter ses vœux le 31 décembre. Nous lui demandons une chose, de retirer sa réforme de retraite par points.
La sénatrice écolo Esther Benbassa était également présente, ainsi que Génération et Place Publique. Le PS manquait à l'appel alors que sa présence était annoncée. Et une fois encore, la France insoumise a fait bande à part. François Ruffin était ce matin auprès des cheminots d'Amiens. Quelques jours plus tôt, mardi, Jean-Luc Mélenchon était à la gare de Lyon avec des grévistes. Il avait d'ailleurs annoncé la création d'une caisse de solidarité parlementaire. Eh bien, elle a été créée aujourd'hui à destination des groupes d'opposition. Le montant récolté sera remis au syndicat le 6 janvier.
Claudia Bertram. A noter que le syndicat national des pilotes de ligne annonce, lui, la levée de son préavis de grève pour le 3 janvier prochain. Le SNPL s'estime satisfait des avancées du gouvernement concernant la réforme. Après les rails et les airs, la route, vous avez peut-être opté pour la voiture, histoire d'éviter les quais bondés, les trains annulés. Il faudra tout de même s'armer de patience. Journée orange dans le sens des départs en Ile-de-France aujourd'hui, selon Bison Futé. Ce sera orange aussi demain dans l'est de la France, en direction des stations de ski et des massifs montagneux. Une enquête inquiétante à quelques jours du réveillon. 87% des Français vont boire de l'alcool ce soir-là, mais seulement la moitié d'entre eux a envisagé une solution pour rentrer. Alors il n'est pas trop tard pour désigner l'un de vos proches qui trinquera à l'eau cette année pour pouvoir prendre le volant et vous ramener en sécurité. L'alcool et la vitesse, première cause d'accidents mortels. Et justement, vous allez peut-être bientôt revoir des panneaux 90 km/h sur le bord des routes secondaires à la place des 80 km/h. Ceux-ci ont pourtant été installés l'année dernière. Eh bien, la loi a été assouplie et le nouveau texte promulgué hier. Une bonne avancée pour Nicolas Perruchot, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher. Il avait longtemps bataillé pour cet assouplissement. Il était l'invité du Grand Journal du Soir sur Europe 1.
Les départementales ont été pendant des années à 90 sans que ça cause de débats particuliers dans le pays. Alors évidemment, la mesure qu'avait imaginé Édouard Philippe de retour à 80 de manière un peu drastique devait faire économiser près de 400 vies. On est tous très sensibles au fait qu'il faut moins de morts évidemment sur les routes, qu'elles soient départementales, nationales ou sur les autoroutes. Dans le monde rural, et c'est toujours la difficulté avec des commissions nationales qui voient ça de Paris, dans le monde rural, il vous faut une à deux voitures par foyer pour vous déplacer. On n'a pas le choix. Il faut emmener les enfants à l'école le matin, aller à l'usine, travailler, et revenir. On ne peut pas le faire avec des transports publics ou des transports en commun, il n'y en a pas. Donc la seule offre possible, c'est la voiture. Et si on pénalise les gens de cette sorte-là, on ne peut plus doubler les camions, c'est très compliqué. Donc évidemment, ça crée de l'incompréhension, voire de la colère pour certains. C'est ce qui s'est produit et j'espère qu'à la lecture des textes maintenant qui sont promulgués, on aura la capacité d'avoir entendu cela. Cette colère qui a grondé pendant des mois, c'était aussi une colère du monde rural, de la France rurale, et qu'il faut comprendre.
Le président du département du Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, répondait à Sébastien Krebs pour Europe 1. Vous attendez peut-être une lettre ou un colis depuis un certain temps déjà. Il y a quelques ratés en ce moment dans plusieurs villes françaises. Alors il ne s'agit pas de grève, rien de volontaire cette fois. Pour Pascal Lelosc de la CGT Courrier, cela résulte de la centralisation du tri à l'œuvre depuis quelques années.
Ces problèmes, nous, à la CGT, on les attribue à toutes les réorganisations qui sont mises en place depuis déjà des années, hein, avec en particulier un nouveau schéma industriel qui a été mis en place par la Poste, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un centre de tri par département, ce qui permettait d'avoir son courrier plus facilement et avoir de la proximité. Et le courrier, notamment ce qu'on appelle le J+1, donc la lettre, pouvait être distribué dès le lendemain chez les usagers. Et là, la Poste a fait le choix d'éloigner ces plateformes en les concentrant au niveau des régions, voire plus. Et du coup, ça éloigne automatiquement la distribution du courrier, quoi, et l'acheminement. Et puis après, il y a aussi le fait des suppressions d'emplois qui sont assez conséquents, puisqu'il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de CDD, il y a beaucoup d'intérim et qui reste très peu de temps à la Poste, parce que vu les bas salaires. Et du coup, on se retrouve en carence d'emploi dans beaucoup d'endroits, ce qui fait que les tournées ne sont pas couvertes tous les jours.
Pascal Lelosc de la CGT Courrier, joint pour Europe 1 par Olivier Samin.
Europe 1. Sophie Echen.
Il n'est pas encore sorti, mais fait déjà beaucoup parler. Le consentement, ce livre autobiographique de Vanessa Springora, une éditrice qui a 47 ans aujourd'hui. Elle raconte dans un récit glacial sa relation amoureuse lorsqu'elle en avait 14 avec l'auteur Gabriel Matzneff, alors âgé d'une cinquantaine d'années. Elle décrit notamment Salomé Le Grand, cette emprise qu'elle a subie.
Et les longues années nécessaires pour se reconstruire. Elle écrit « À 14 ans, on n'est pas censé être attendu par un homme de 50 ans à la sortie du collège, ni se retrouver dans son lit. Mais elle rappelle aussi qu'à l'époque, il était encensé par certains médias, courtisé par le petit milieu littéraire, alors qu'il affichait ouvertement ses préférences sexuelles pour les mineurs, filles comme garçons. En mars 1990, Matzneff est l'invité d'Apostrophe, l'émission littéraire de référence d'Antenne 2. Bernard Pivot lui demande pourquoi les lycéennes et les midinettes écoutaient leur échange.
Je trouve que quand on a dans sa vie quelqu'un qui n'est pas encore durci par la vie, Une femme qui a déjà eu beaucoup d'hommes dans sa vie, beaucoup de désillusions. Une fille de très jeune est plutôt plus gentille.
Vous êtes quand même un collectionneur de minettes. D'ailleurs, vous faites des bilans de temps en temps. Forme éblouissante donc, et mes amours en témoignent. La conquête en 3 jours consécutifs de 3 inconnus, dont 2 vierges, Marie-Agnès, Aude et cette Brigitte S, avec qui j'ai fait l'amour de toutes les façons, quasi sans interruption.
Moi, je crois que je vis actuellement sur une autre planète. Moi, M. Mazneff me semble pitoyable.
Et cette femme qui réagit, c'est Denise Bombardier, une écrivaine canadienne, seule à s'offusquer à l'époque. Alors ce matin, Bernard Pivot s'est défendu avec ce tweet, je cite, « Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. C'est un progrès. » Fin de citation. Changement d'époque qui n'a pas empêché Gabriel Matzneff de recevoir le prix Renaudot Essai en 2013.
Salomé Legrand a noté que la romancière Denise Bombardier était l'invitée de Sébastien Krebs dans le journal du soir sur Europe 1. Vous entendrez son interview complète après ce journal. Près de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, le corps de la jeune femme retrouvée en partie calcinée et dénudée a été identifié. Il s'agirait d'une prostituée, Guillaume Bier.
Oui, pour les gendarmes chargés de l'enquête, la victime a désormais un nom et une histoire. Et c'est grâce au coup de pouce d'un policier cannois que la jeune femme a été identifiée. En voyant les photos diffusées à tous les services locaux, cet enquêteur de la Brigade des Mœurs, qui travaille quotidiennement sur le milieu du proxénétisme, eh bien, il a reconnu les signes distinctifs d'une femme qui est connue de son service comme se livrant à la prostitution. Et les vérifications ont permis de confirmer ce rapprochement. On sait maintenant que la victime était âgée de 37 ans, qu'elle était née en Albanie et qu'elle s'était installée à Cannes. D'après nos informations, elle était également mère d'un jeune garçon d'une douzaine d'années qui est actuellement pris en charge. Hier, une perquisition a été menée dans l'appartement de la victime. Les gendarmes poursuivent leurs investigations pour tenter de reconstituer l'emploi du temps de la jeune femme, étudier son environnement, ses fréquentations, ses éventuels rendez-vous dans les jours, les heures qui ont précédé la découverte de son corps le matin de Noël. Quant au scénario et aux causes de la mort, c'est l'autopsie qui sera déterminante. Elle est prévue lundi.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Une web télé pour suivre l'audience des attentats du 13 novembre, c'est ce qu'envisage de mettre en place le président de la Cour d'appel de Paris. Et ce serait une première, un procès de grande ampleur, puisque 1700 victimes et proches de victimes se sont portées partie civile. Cette solution leur permettrait de suivre l'audience depuis chez elles, mais pourrait aussi présenter des risques. C'est en tout cas ce qu'estime maître Frédéric Bibal. Il est l'un des avocats des victimes.
Le risque numéro un, c'est évidemment celui de l'isolement de la victime face à des scènes judiciaires qui peuvent être très éprouvant pour elle. La partie civile est, au sens propre du terme, l'un des acteurs du procès pénal et sa présence dans la salle, sa réaction dans la salle, fait partie du procès lui-même. Si l'on écarte les victimes de leur propre procès, on modifie la nature intrinsèque du processus judiciaire. Il y a un très vieux principe qui est celui de l'interdiction de reproduire des images ou des sons en cours d'audience. Ce principe a une justification très forte en termes d'unité du procès et de sérénité de la justice. Il ne faudrait tout de même pas que sur le procès des attentats, qui va tout de même un moment tout à fait central de notre vie judiciaire, on porte atteinte pour la première fois et de façon massive à ce principe.
Maître Frédéric Bibal, avocat spécialiste du dommage corporel et conseil de victimes des attentats du 13 novembre. Il répondait pour Europe 1 à Marion Dubreuil. Une enquête ouverte à Nice après une distribution de tracts publicitaires par des dealers, cocaïne, MDMA, cannabis, les tarifs, quantités, plans, tout est indiqué. Ces tracts ont été retrouvés sur des véhicules garés dans un parking en plein centre-ville. Il renvoie vers un quartier connu pour abriter des trafics de stupéfiants.
Europe 1. Sophie Echen.
Les sports et enfilez vos gants, on va parler boxe. Le franco-arménien Arsène Goulamirian remonte sur le ring demain soir à Marseille pour défendre sa ceinture mondiale WBA des lourds légers. Il affrontera le Moldave Constantine Beyenaru qui porte les couleurs des États-Unis. Un adversaire de taille, invaincu et 8e au classement mondial. Stéphane Frangier, vous avez assisté aux coulisses de ce combat pour lequel Goulamirian sera comme chez lui.
Ah, il a gagné sa ceinture mondiale ici même et il l'a déjà défendu une première fois toujours à Marseille avec cette communauté arménienne, on le sait, toujours très présente pour le soutenir. Donc oui, pour Arsène Goulamirian, ce sera comme à la maison.
Marseille, c'est la maison, nos limites, parce que c'est un plaisir de boxer ici devant mon public. Palais des Sports, chez moi, on va dire, j'ai créé l'histoire depuis le 24 mars 2018. Et quand j'arrive ici, c'est comme si je rentre chez moi. Et je vois ma famille et je boxe devant ma famille. Donc, hâte. C'est un plaisir de monter sur le ring et de boxer devant mon public, tout simplement.
Voilà, et le natif d'Erevan qui vise l'unification de toutes les ceintures mondiales pour devenir ainsi le grand champion incontesté des lourds légers. Mais il devra se défaire d'un adversaire compliqué à boxer, un gaucher avec sa garde inversée. Mais il se donne les moyens de croire en son rêve. On a pu le voir avec des images de sa préparation, version commando par 2500 mètres d'altitude dans une région montagneuse américaine.
Merci Stéphane Frangy à Marseille où se tiendra donc demain ce combat. Et puis Zlatan Ibrahimovic officiellement de retour à l'AC Milan. Le Suédois a signé un contrat de 6 mois chez le club italien avec la possibilité de prolonger d'une année supplémentaire. Zlatan était libre de tout contrat depuis son départ mi-novembre du Los Angeles Galaxy. La météo tout de suite avec vous Marlène. Durée, on jette un œil sur la couleur du ciel. Bonne nouvelle, ce sera un week-end plutôt calme, mais tout de même gris, Marlène.
Et oui, Sophie, les conditions anticycloniques s'imposent par l'ouest et à cette période de l'année, eh bien, ça se traduit tout simplement par des brouillards, des nuages bas, des plaques de grisaille qui peuvent persister longtemps d'ailleurs durant la matinée. Alors demain, on va se réveiller le plus souvent sous un ciel gris, sauf dans les Pyrénées, les régions méditerranéennes, en basse vallée du Rhône aussi, grâce au vent, le vent de nord qui nous garantit du beau temps. Et puis ça va concerner aussi l'ensemble des Alpes et le relief du Jura. De belles éclaircies à prévoir aussi du Cantal aux Charentes, ça c'est pour le matin. Et en journée, dans les autres régions, le soleil percera plus ou moins rapidement. Mais des poches de grisaille résisteront, ça c'est sûr, en plaine d'Alsace, dans le Val de Saône, la vallée de la Garonne et en bordure de Manche aussi. Les températures, les mini comme les maxi, vont se rapprocher des valeurs de saison. En journée, on attend 3 à 6 degrés dans le nord-est, avec par exemple 3 à Strasbourg et 6 à Dijon. Comme ce matin, nous aurons 9 degrés dans la capitale, 9 également à Rouen et Bourges. Il fera 10 à 13 dans le sud-ouest et du côté de la Grande Bleue, comptez 16 à Toulon et Ajaccio.
C'était la météo signée Marlène Duré.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamaud de Boursier.com, juste avant l'invité de Sébastien Krebs. Alors que la polémique enfle autour des propos tenus par Gabriel Matzneff lors d'une émission télévisée en 1990, Sébastien recevait ce soir la romancière canadienne Denise Bombardier, la seule qui avait dénoncé ses agissements il y a 30 ans. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
Europe 1, Sophie Echen.
Comme promis, il est l'heure de faire un point sur la bourse avec vous, Didier Hamaud de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sophie.
Wall Street reste tout proche de ses records historiques ce soir.
Oui, Wall Street reste au perché, proche effectivement de ses sommets. Le Dow Jones gagne encore 0,08%, 0,08%, donc une toute petite hausse. 28 646 points. On souffle un petit peu sur l'indice des valeurs de technologie. Le Nasdaq perd 0,17%, mais reste quand même au-dessus des 9000 points, 9007 points, après quand même 11 séances consécutives de hausse. Le Nasdaq gagne 36% depuis le début de l'année. Aujourd'hui, donc, les principales valeurs de technologie ont soufflé à l'image d'Apple, stable sous les 290 dollars. Amazon n'a pas bougé aussi avec IBM, 135 dollars. Intel, 60 dollars inchangé. Microsoft, 159 dollars, ça ne bouge pas non plus. Le pétrole marque une pause aussi sur les 68 dollars, le baril de Brent. Depuis le 1er janvier, le baril de pétrole a quand même regagné 26%. De quoi donc souffler un petit peu en cette fin d'année. L'euro termine plus ferme, 1,1185 face au dollar.
La bourse de Paris a de nouveau progressé après la pause de Noël.
Oui, plus 0,13%, une petite hausse. 6037 points dans un marché toujours très calme après deux jours et demi de pause. Le CAC 40 campe malgré tout sur ses meilleurs niveaux depuis 12 ans et demi, depuis la mi-2007. Quelques valeurs isolées prennent un petit peu de hauteur ce soir, comme dans les biotechnologies, on a Abivax, plus 10%, ou Eritech, Genfit aussi monte de 5,5% avec DBV, et puis Innate Pharma, toujours dans les biotechnologies, Innate gagne 3,5% ce soir.
Et exception du jour, le secteur pétrolier lui a marqué une pause.
Oui, logiquement, les valeurs pétrolières marquent un temps d'arrêt après un parcours solide ces derniers jours dans le sillage de la remontée des cours du brut. On souffle sur Technip, moins 2%, sur CGG qui redonne 1,6%, sur Total, moins 0,4%, 49,29€ dans un marché encore une fois très calme. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'activité non plus. Francfort a gagné 0,2%, Bruxelles 0,11% de mieux, Madrid plus 0,4%. On rappelle le CAC 40 en hausse timide de 0,13%, 6037 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de Boursier.com.
Europe 1, Sophie Echen.
Pendant les vacances, pas d'écho, mais l'invité de Sébastien Krebs. Sébastien, vous recevez Denise Bombardier. L'affaire refait surface depuis quelques jours. En 1990, lors d'une émission télévisée, elle avait été la seule à s'opposer aux propos de Gabriel Matzneff, qui se vantait de son attirance pour les très jeunes filles.
Bonsoir Denise Bombardier. Oui, bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. C'est une histoire donc qui ressurgit aujourd'hui. Nous parlons de l'écrivain Gabriel Matzneff, 83 ans aujourd'hui. Il a longtemps été une figure très prisée du milieu littéraire. Il décrivait dans ses livres, très librement, on va dire, dans les années 70, ses penchants pour les jeunes filles et aussi les jeunes garçons. Aujourd'hui, l'éditrice Vanessa Springora raconte dans son livre Le Consentement, qui sort chez Grasset la semaine prochaine, l'emprise que l'écrivain a eue sur elle. À l'époque, elle n'avait que 14 ans. Lui avait une cinquantaine d'années. Denise Bombardier, c'est un témoignage qui paraît aujourd'hui, mais tout le monde savait à l'époque, il ne s'en cachait pas.
Mais pas du tout, ça se savait, ils avaient qu'à lire 6 livres. Mais évidemment, ils disaient qu'ils faisaient de la littérature, on le décrivait comme un des plus grands, sous la plume de ses amis, bien sûr. J'ai lu que c'était un des monuments de la littérature française du XXe siècle.
Et tout le monde savait que ce qu'il racontait dans ses livres, c'est ce qu'il faisait vraiment.
Évidemment, mais moi j'ai lu le livre de Vanessa Springora. Vanessa raconte qu'elle a retrouvé sa propre correspondance à elle, mais dans ce qu'il appelle des romans. Mais intégralement, il la cite intégralement parce qu'il lui demandait, il devait demander ça à plusieurs de ses jeunes compagnes, mais en fait, de ses enfants, moi j'appelle ça des enfants, je vais vous dire franchement, 14-15 ans, c'est des enfants. Elle avait 13 ans et demi quand c'est arrivé. Il lui demandait de lui écrire. Elle écrivait deux lettres par jour.
C'était quoi? C'était de l'emprise? De la fascination, de l'emprise?
Il prenait toujours le même genre de jeunes filles. Des jeunes filles qui avaient des problèmes à la maison, qui avaient des problèmes avec leurs parents. Mais qui n'a pas de problème avec ses parents à l'adolescence? Quand on n'en a pas, on en crée. Et évidemment, dans son cas, elle, son père avait quitté sa mère. Mais enfin, c'était très, très compliqué dans le couple. Et sa mère était une femme un peu particulière. Elle en parle dans son livre. Il reste que sa mère, le premier réflexe qu'elle a eu quand elle a su qu'elle avait été avec lui pour la première fois, elle lui a dit « mais c'est un pédophile ». La mère lui a dit. Et puis la mère a continué, l'a invité, il se retrouvait chez elle avec sa fille et la mère. Mais Vanessa, je sais qu'elle voit encore sa mère. C'est très très troublant la réaction qu'elle a avec sa mère.
Alors on lit ses récits dans Les Moins de 16 ans, par exemple, en 1974, ou dans son journal intime publié en 76. Et un jour, Denise Bombardier, vous vous retrouvez en face de Gabriel Matzneff sur un plateau de télévision, sur le plateau d'Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot. Et Bernard Pivot l'interroge sur ses comportements, cette attirance vers les lycéennes et les minettes, comme il dit.
Pour les minettes, ouais.
Et sur le plateau, vous allez le confronter, mais vous semble-t-il, la seule choquée à ce moment-là.
Oh ben j'étais la seule qui ait pris la parole et j'étais là pour prendre la parole parce que j'avais lu son livre au complet. Et j'avais prévenu mon éditeur qui m'avait, lui, à son tour prévenu en disant « ça va nuire à ton livre et ça va nuire à l'écrivain que tu es pour tous les livres suivants ». Je lui ai dit « je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je dis pas un mot ». Parce que dans ce livre-là, il décrivait en détail comment il sodomisait les petites filles. Hein? Il disait « bon, je vais chercher Anne-Sophie au lycée, nous allons prendre un verre à la coupole, je lui dis « on va aller à mon appartement, son petit cul imberbe m'attire, je la sodomise proprement ».
Et vous étiez la seule choquée.
J'étais la seule qui en a parlé.
Bernard Pivot dit aujourd'hui, c'est une époque, les années 70 et 80, où la littérature passait avant la morale.
Ouais, mais ça dit quelque chose de la France aussi. Parce que déjà chez nous, c'était, je veux dire, c'est, d'ailleurs, une des premières choses que j'ai dites, je crois, c'est j'ai l'impression d'être sur une autre planète, moi. J'arrive du Canada, du Québec, et ce que j'entends, j'étais décalée. J'étais totalement décalée. Mais enfin, je n'étais pas étonnée puisque j'avais lu et que je savais que ça existait et que je savais qu'on défendait pareilles idées. Je savais qu'il y avait une pétition signée par de Beauvoir. Ça, tous vos monstres sacrés du XXe siècle en philosophie. Je sais que même Jacques Lang avait signé cette pétition dans les années 77, je crois, pour en quelque sorte décriminaliser les rapports entre les enfants et les adultes. Sous prétexte qu'il fallait jouir sans contrainte.
Je reviens au coup de gueule que vous passez ce soir-là à la télévision. Est-ce que finalement, il a eu des conséquences? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après l'émission? Il y a des gens qui vous ont appelé?
J'ai reçu 2000 lettres de français pour m'appuyer. Mais j'ai aussi reçu des lettres d'insultes et j'ai été dans les journaux dès les jours qui ont suivi. Jacques Landsman, pleine page de Libération, qui dit, j'ai pas compris pourquoi notre ami Madnef lui a pas balancé une gifle à la figure. Solers, dans une émission FR3, a dit sur le plateau, mais c'est une mal baisée, parce que ça revient tout le temps. Et c'est comme ça que j'ai été traitée.
Et vous avez eu, je crois, même un coup de fil de l'Élysée, du président de l'époque.
Ouais. Oui, j'ai été convoquée à l'Élysée cette fois-là. Parce que moi, je connaissais personnellement le président Mitterrand. Et quand je venais à Paris, il m'arrivait d'aller à l'Élysée. Et il me recevait ou je le croisais chez des... Nous avions des amis communs, ça m'est arrivé aussi.
Qu'est-ce qu'il vous en a dit cette fois... Qu'est-ce qu'il avait pensé de votre intervention
ce moment-là ? Il avait un message à passer. Il m'a dit, ah, ce Madnef. Il est vrai que je lui ai reconnu, à une certaine époque, je lui ai reconnu quelques talents. Malheureusement, il a sombré dans la religion orthodoxe. Et la pédophilie. Voilà le message qu'il voulait passer. Et c'est la seule fois où l'Élysée a émis un communiqué officiel disant que Denise Bombardier avait été reçue à l'Élysée. C'est dire que l'Élysée voulait se détacher de ça.
Denise voilà. Bombardier, un dernier mot très, très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Il y a un témoignage, il revient. Gabriel Matzneff a 83 ans, il n'a jamais été poursuivi par la justice. Faut-il qu'il le soit aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous dire que les Français prennent leurs décisions. Moi, je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. De toute façon, je ne sais plus ce qui reste de Madnef après ce qui vient d'arriver. Et avec le livre magnifique, courageux, extraordinairement bien écrit de Vanessa Springora, qui a survécu, même si elle a été flétrie à 13 ans et demi. Voilà.
Vanessa Springora, donc, qui sort donc Le Consentement chez Grasset. Ça sort le 2 janvier, donc la semaine prochaine. Merci Denise Bombardier d'avoir été en ligne avec nous ce soir.
Je vous en prie.
Bonne
au
soirée
revoir.
À vous.
Et merci à vous Sébastien Krebs. Dans une poignée de secondes, on se penche sur les unes de vos quotidiens. Qu'allez-vous découvrir demain dans vos journaux ? A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1.
Sophie Eschen.
Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. L'Antarctique au cœur d'une bataille planétaire, titre Le Figaro. Le continent blanc va-t-il rester un territoire protégé, symbole de paix dédié à la science, interroge Le Quotidien. 200 ans après sa découverte, le pôle Sud excite de nouvelles convoitises, à commencer par celle de la Chine. Dans son édito, Yves Tréhard pose la question, l'influence de notre pays va-t-elle sombrer dans les profondeurs de la banquise ? Toujours dans Le Figaro, mais dans les pages saumon cette fois, un bilan mitigé pour les ordonnances travail, 2 ans après la réforme du Code du travail. Les partenaires sociaux peinent à s'emparer des nouveaux outils mis à leur disposition. Mulhouse, 2200 euros, la garde aux urgences, titre les dernières nouvelles d'Alsace. La rémunération offerte aux médecins intérimaires pour une garde de 24 heures aux urgences de l'hôpital Émile Müller atteint cette somme à l'heure où nous parlons. Un montant record, mais illégal dans un service en crise. Les jeunes en Europe à la une du Dauphiné libéré. Où sont-ils ? S'interroge Le Quotidien. Les Européens font moins d'enfants et vivent plus longtemps. Une situation que l'Union Européenne doit prendre à bras-le-corps pour faire face aux problèmes démographiques et de main-d'œuvre. En Pologne, les plus jeunes partent vite et ce sont des travailleurs étrangers qui les remplacent. La panique démographique touche aussi l'Allemagne, l'Espagne et demain peut-être la France. Et puis l'Union vous invite dans l'antre des collectionneurs, que vous soyez placomusophile, philatéliste, nicophiliste ou pipomane, bienvenue dans l'univers étonnant des collectionneurs. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Passez une belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Je vous laisse en compagnie de Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Sophie. Pipoman, ça m'intéresse bien ça. J'aime bien savoir ce que c'est.
Eh bien, vous l'apprendrez demain à la Une de l'Union pour vous appeler. Un seul numéro, ça n'a pas changé, le 3921.
Et je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour un prochain point sur l'info.